Chapitre 4. Richard repéra Callan dans le jardin. Sa robe et ses longs cheveux voltaient derrière elle sous la lumière du couchant. Arrivée près d'un arbre, elle s'arrêta. En l'attendant, elle essuya pour la deuxième fois de la journée le sang qui maculait sa main. Quand il lui tapota l'épaule, elle se retourna, parfaitement impassible. « Callan, je suis navré et... ne t'excuse pas. Ton frère ne s'en prenait pas à moi, c'est toi qu'il visait.
Que veux-tu dire ?
Cet homme est jaloux. Il n'est pas idiot, il a vu que j'étais avec toi et ça l'a irrité. » Richard prit Callan par le bras et l'entraîna loin de la maison. Furieux contre Michael, il avait honte de sa réaction, comme s'il avait trahi son père.
Ça n'explique rien. Le premier conseiller peut avoir tout ce qu'il désire. J'aurais dû intervenir.
« Je ne voulais pas que tu t'en mêles. Richard, il convoite tout ce que tu possèdes. Si tu l'avais arrêté, il se sentirait obligé de me conquérir. Désormais, je ne l'intéresse plus. Ce qu'il a fait au sujet de votre mère était pire, mais aurais-tu voulu que je parle à ta place ?»«
Non, ce n'est pas à toi de t'en charger, »
concéda Richard, sa colère enfin étouffée. Autour d'eux, les maisons plus modestes restaient coquettes et bien entretenues. Certains propriétaires profitaient de la clémence du temps pour faire des réparations avant l'arrivée de l'hiver. Sentant l'air vif et piquant, Richard devina que la nuit serait froide. Une soirée idéale pour un bon feu de cheminée qui embaumerait l'atmosphère. À mesure qu'il marchait, les palissades blanches cédaient la place aux grands carrés de pelouse des manoirs érigés en retrait de la route. Sans s'arrêter, Richard arracha une feuille à la branche d'un chêne qui bordait le chemin.
« Tu sembles en savoir long sur les gens, » dit-il. « Leur motivation ne t'échappe pas. »«
Possible. »«
C'est à cause de ça qu'on te poursuit ?»
demanda Richard en déchiquetant soigneusement sa feuille. Callan tourna la tête vers lui et chercha son regard.
« Ces gens me traquent parce qu'ils ont peur de la vérité. Toi, elle ne t'effraie pas. » C'est pour ça que je te fais confiance. »
Il sourit du compliment, content de la réponse, même s'il n'était pas sûr de la comprendre.
« Alors tu ne vas pas me botter les fesses ?»«
Non, mais ça n'est pas passé loin. » Elle se tut un instant, mélancolique.
« Navré, Richard, mais pour l'instant, il faut me croire aveuglément. Plus je t'en dirai, plus nous serons en danger tous les deux. »
« Toujours ami ?»«
Toujours ami, » confirma Richard en jetant les restes de la feuille. « Un jour, tu me raconteras tout. »«
Si je peux, c'est promis. » »«
Parfait. Après tout, je suis un sourcier en quête de vérité. »
Callan s'arrêta net, le prit par la manche et le força à se tourner vers elle.
« Pourquoi as-tu dit ça ?»«
Quoi ?
Sourcier en quête de vérité ?» Z me donne ce surnom depuis mon enfance, parce que je veux toujours aller au fond des choses, selon lui.
Pourquoi cette réaction ?
Oublie ça,
souffla Callan en reprenant son chemin.
Richard avait encore touché un point sensible.
Mais cette fois, il tenait un début d'explication. Les ennemis de Callan la traquaient parce qu'ils redoutaient la vérité. En l'entendant annoncer qu'il était un sourcier en quête de vérité, elle avait dû avoir peur qu'il s'en prenne aussi à lui.
« Peux-tu au moins me dire qui sont les gens qui te poursuivent ?»
Callan se rapprocha de lui sans cesser de surveiller la route.
« Ce sont les adeptes d'un homme maléfique appelé Darken Rahl. S'il te plaît, ne me pose plus de questions, je n'ai pas envie de penser à lui. »
Darken Rahl. Au moins maintenant, ils connaissaient le nom de leur adversaire. Une fois le soleil disparu derrière les collines des bois de Heartland, l'air se rafraîchit sensiblement. Richard et Callan marchaient en silence. Cela ne gênait pas le jeune homme car il avait très mal à la main et se sentait un peu nauséeux. Un bon bain et un lit douillet, voilà ce qu'il lui fallait.
« Non, » rectifia-t-il.
Il serait plus galant de laisser le lit à son ami. Il dormirait sur son fauteuil préféré, celui qui grinçait un peu.
Un bon programme.
La journée avait été longue et il n'était plus très vaillant. Près d'un bosquet de bouleaux, il fit signe à Callan de s'engager sur le sentier qui conduisait à sa maison. Elle avança et brisa au passage des toiles d'araignée, chassant du dos de la main les fils qui se déposaient sur son visage et ses bras. Richard avait hâte d'être chez lui. En plus du couteau et des autres choses inutiles qu'il avait oublié d'emporter, il était pressé de retrouver un objet très important qu'il tenait de son père. George avait fait de lui le gardien d'un secret et d'un grimoire tout aussi secret. Afin de prouver que l'ouvrage n'avait pas été volé, mais simplement mis à l'abri, il avait donné à son fils un moyen de démontrer sa bonne foi. Un croc triangulaire long de 3 doigts. Richard y avait attaché une lanière de cuir pour le porter autour du cou. Mais comme son couteau et son sac à dos, il avait laissé le pendentif chez lui. Comment pouvait-on être aussi stupide? Sans le croc, son père risquerait de passer pour un vulgaire voleur, ainsi que Michael l'avait insinué. Plus haut sur le sentier, après une zone rocheuse à découvert, les chênes, les érables et les bouleaux cédaient la place à des épicéas. Le sol, jusque-là couvert de feuilles vertes, déroulait sous les pieds des promeneurs un tapis d'aiguilles marron. Soudain, Richard eut un mauvais pressentiment. Prenant délicatement la manche de Callan entre le pouce et l'index, il la tira en arrière. « Je vais passer le premier, » dit-il calmement. Elle obéit sans poser de questions. La demi-heure suivante, avançant plus lentement, il étudia le sol et examina toutes les branches qui pendaient au bord du chemin. Puis il s'arrêta au pied de la dernière butte avant sa maison et fit signe à Callan de s'accroupir avec lui derrière un buisson de fougères. « Un problème ?» demanda la jeune femme. « Je m'inquiète peut-être pour rien, mais quelqu'un a emprunté ce chemin dans l'après-midi. » Il ramassa une pomme de pin écrasée et l'étudia avant de la reposer. « Comment le sais-tu ? »
« À cause des toiles d'araignée. »
Il regarda vers le sommet de la butte.
« Il n'y en a plus depuis un moment. Quelqu'un est passé et les a détruites. Les araignées n'ont pas eu le temps d'en tisser de nouvelles. »
« Quelqu'un habite dans les environs ?»«
Non, il peut s'agir d'un voyageur, mais ce chemin n'est pas très fréquenté. »«
Quand je marchais devant, il y avait des toiles d'araignées partout. Je les enlevais de mon visage tous les 10 pas. »«
C'est bien ce qui m'ennuie. Personne n'a suivi cette partie-là du chemin aujourd'hui, mais depuis la zone à découvert, il n'y a plus de toiles. »«
Comment est-ce possible ?»«
Je n'en sais rien. » Quelqu'un a peut-être traversé les bois jusqu'à la clairière et rejoint le chemin à cet endroit. Mais c'est un itinéraire très accidenté. Ou alors mon visiteur est tombé du ciel. Ma maison est juste après cette butte. Restons vigilants.
Richard passa le premier. Callan le suivit, tout laissant en alerte comme lui. Le jeune homme aurait voulu faire demi-tour, mais il ne parvenait pas à s'y résoudre. Impossible de repartir sans le croc que son père lui avait remis en guise de sauf-conduit. Au sommet de la butte, ils s'accroupirent derrière un grand pin et examinèrent la maison. La porte était ouverte alors qu'il la fermait toujours, et les fenêtres avaient été cassées. Toutes ses possessions jonchaient le sol.
Richard se releva.
« Mise à sac, comme la maison de mon père !» Callan le saisit par la chemise et l'empêcha de courir.
« Richard !»
souffla-t-elle furieuse.
« Ton père est peut-être rentré chez lui exactement comme ça. Et s'il avait foncé tête baissée comme tu t'apprêtais à le faire, alors que ses ennemis le guettaient à l'intérieur ?»
Elle avait raison, bien entendu. Richard se passa une main dans les cheveux pour s'aider à réfléchir. Puis il regarda de nouveau sa demeure. La cloison arrière était adossée au bois et la porte d'entrée donnait sur la clairière. Comme il n'y avait pas d'autre issue, toute personne cachée à l'intérieur s'attendrait à ce qu'il passe par là.
« D'accord, » murmura-t-il. « Mais il y a chez moi un objet que je ne peux pas laisser. Dès que je l'aurai récupéré, on filera d'ici. »
S'il aurait préféré y aller seul, abandonner Callan sur le chemin ne lui disait rien qui vaille. Ils s'enfoncèrent dans les bois et décrivirent un grand cercle pour contourner la maison. Quand ils atteignirent l'endroit d'où Richard pouvait approcher du bâtiment par l'arrière, il fit signe à son amie de l'attendre. Elle en fut contrariée, mais ce n'était pas négociable. Si quelqu'un avait tendu un piège, il ne voulait pas qu'elle tombe dedans avec lui. Il la laissa sous un épicéa, avança lentement et fit un grand détour pour rester sur le tapis d'aiguilles et éviter les zones jonchées de feuilles. Quand il aperçut la fenêtre de derrière, il s'immobilisa. Pas un bruit. Plié en deux, le cœur battant à tout rompre, il reprit sa progression. Lorsqu'un serpent traversa son chemin, il le laissa passer sans esquisser un geste. Arrivé devant la maison en rondin patiné par les intempéries, il posa doucement une main sur le rebord de la fenêtre et leva la tête pour jeter un regard à l'intérieur. Tous les carreaux étaient cassés et il ne restait rien d'intact dans sa chambre. Autour du lit éventré gisaient des livres précieux aux pages déchirées. La porte qui donnait sur l'autre pièce était entrebâillée, mais pas assez pour voir ce qu'il y avait derrière. Si on ne la calait pas avec un morceau de bois, c'était la position qu'elle adoptait naturellement. Richard passa la tête par la fenêtre et baissa les yeux sur son lit. Son sac à dos et le pendentif étaient accrochés à la colonne du lit à l'aplomb de la fenêtre, là où il les avait laissés. Il tendit lentement le bras. Dans la pièce de devant retentit un grincement familier. Richard se pétrifia. Le craquement de son fauteuil, tellement lié à ce vieux meuble qu'il n'avait jamais pu se résoudre à le supprimer. Richard recula sans un bruit. Quelqu'un l'attendait dans l'autre pièce, assis sur son cher fauteuil. Il capta du coin de l'œil un mouvement qui le força à tourner la tête vers la droite. Perché sur une souche pourrie, un écureuil le regardait. « S'il te plaît, » pensa Richard, « ne commence pas à babiller pour m'ordonner de quitter ton territoire. » L'écureuil continua à l'observer un long moment, puis sauta sur un arbre, l'escalada et disparut. Richard releva la tête pour regarder de nouveau par la fenêtre. La porte était toujours dans la même position. Sans la quitter des yeux, attentif au moindre bruit venant de l'autre pièce, le jeune homme tendit le bras et saisit son sac et son pendentif. Le couteau reposait sur une petite table de l'autre côté du lit. Pas moyen de le prendre. Il ramena lentement son bras et fit passer le sac par la fenêtre sans heurter les échardes de la vitre brisée. Son butin dans les mains, il rebroussa chemin et résista de justesse à l'envie de courir. Un coup d'œil par-dessus son épaule lui apprit que personne ne le suivait. Passant la tête à travers la lanière de cuir, il fit glisser le croc sous sa chemise. Personne ne devait le voir à part le gardien du grimoire secret. Callan attendait là où il l'avait laissé. Quand elle le vit, elle se leva d'un bond, mais il posa un doigt sur ses lèvres pour lui indiquer de ne pas parler. Le sac sur son épaule gauche, il tapota gentiment le dos de son ami qui se mit aussitôt en mouvement. Pas question de revenir par le même chemin. Richard guida Callan à travers bois et ils rejoignirent le sentier au-delà de la maison. Tous les deux soupirèrent de soulagement devant les magnifiques toiles d'araignée qui leur barraient le chemin sous les derniers rayons du soleil. Ce sentier était plus difficile et très long, mais il les conduirait à destination, chez Zed. La maison du vieil homme était trop loin pour qu'il l'atteigne avant la nuit et s'aventurer dans le noir sur un terrain aussi accidenté aurait été dangereux. Mais Richard voulait mettre le plus de distance possible entre eux et l'ennemi qui attendait encore son retour à la maison. Tant qu'il y aurait un peu de lumière, il continuerait. Avec un détachement qui l'étonna, Richard se demanda si c'était l'assassin de son père qui le guettait. Sa maison était ravagée comme celle de George. Lui avait-on tendu le même piège qu'à son fils? S'agissait-il du même tueur? Brûlant de l'affronter ou au moins de voir son visage, le jeune homme avait pourtant cédé à la voix intérieure qui lui ordonnait de fuir. Richard s'efforça de ne pas laisser son imagination s'emballer. Bien sûr que quelque chose en lui l'avait incité à fuir le danger. Aujourd'hui, il s'était sorti de justesse d'une situation désespérée. Se fier une fois à sa chance était déjà stupide.
Rejouer à ce petit jeu aurait été d'une arrogance suicidaire. La fuite restait la meilleure solution. Pourtant, il regrettait toujours d'ignorer s'il existait un lien entre la mort de son père et la mise à sac de sa propre maison. Il voulait savoir qui était le meurtrier de George. Il brûlait de le découvrir. Même si on ne lui avait pas laissé voir le cadavre, il avait insisté pour savoir comment George était mort. Chase le lui avait dit en prenant 1000 précautions. Son père avait le ventre ouvert, ses entrailles éparpillées sur le sol. Comment pouvait-on faire une chose pareille, et pourquoi? Y penser le rendait malade et menaçait de le rendre fou. Il ravala péniblement la boule qui s'était formée dans sa gorge. « Alors ?» lança soudain Callan.
« Alors quoi ?
As-tu récupéré ce que tu cherchais ?»«
Oui. »«
Et je peux savoir ce que c'était ?»«
Mon sac à dos. Il me le fallait. »
Callan se retourna, les poings sur les hanches, l'air horripilé.
« Richard Cypher, tu veux me faire croire que tu as risqué ta vie pour un sac à dos ?»«
Mon ami, j'ai peur de devoir te botter les fesses. »
fit Richard sans réussir à sourire. Elle continua à le regarder de biais, la tête inclinée, mais la réplique avait douché sa fureur.
« Bien joué, mon ami, » dit-elle. Très finement joué. À l'évidence, Callan avait l'habitude d'obtenir des réponses à ses questions.
La pénombre venue, Richard réfléchit aux endroits où il pourrait passer la nuit. Plusieurs pins compagnons sur leur chemin pourraient les abriter. Il y en avait un au bord d'une clairière, pas très loin devant eux. On apercevait la cime des grands arbres sur le fond encore rosâtre du ciel. Il se décida pour cette solution et fit signe à Callan de le suivre. Le croc qui pendait à son cou le harcelait sans cesse, comme les secrets qui dormaient dans sa tête. Il aurait donné cher pour que son père n'ait pas fait de lui le gardien de ce grimoire. Cette pensée avait traversé son esprit quand il était près de sa maison, mais il l'avait refoulée tout au fond de sa tête. Ses livres avaient été déchiquetés par quelqu'un que la colère aveuglait. Était-ce pour se venger de ne pas avoir trouvé le bon ouvrage? Impossible. À part son véritable propriétaire, personne ne connaissait l'existence du grimoire. Plus son père et lui, et la créature à qui appartenait le croc. Mieux valait ne plus penser à tout ça. Il fallait qu'il chasse cette méchante idée de sa tête. George n'avait pas voulu lui nuire, il n'avait pas eu tort de lui confier le grimoire. La peur éprouvée sur le mont dentelé, puis près de sa propre maison, semblait avoir sapé ses forces. Ses pieds lui semblaient trop lourds pour continuer longtemps à se lever et s'abaisser sur le sol couvert de mousse. Au moment où Richard sortait des broussailles pour pénétrer dans la clairière, il s'arrêta, histoire d'écraser la mouche qui s'attaquait à son cou. Callan lui saisit le poignet au vol. Son autre main se plaqua sur la bouche du jeune homme. Richard s'immobilisa. Callan hocha lentement la tête, lui lâcha le poignet, posa sa main libre à l'arrière du crâne de son compagnon et continua à presser l'autre sur sa bouche. À son expression, il comprit qu'elle mourait de peur à l'idée qu'il émettait un son. Elle le força à s'accroupir et il ne résista pas. Ses yeux le tenaient sous son emprise aussi ferme que celle de ses mains. Sans cesser de croiser son regard, elle approcha son visage si près du sien qu'il sentit un souffle chaud sur sa joue.
« Écoute-moi bien !»
murmura-t-elle si bas qu'il dut tendre l'oreille pour comprendre.
« Fais exactement ce que je dis !»
Elle parlait avec une telle intensité qu'il n'osa même pas scier.
« Ne bouge pas ! Quoi qu'il arrive, ne bouge pas !» Sinon nous sommes morts. Si la mouche te pique, laisse-la faire. Compris? Tu peux hocher doucement la tête pour répondre.
Il s'exécuta. Du regard, elle lui indiqua de tourner les yeux vers la clairière. Il obéit avec une lenteur infinie et ne vit rien. Puis, il entendit un grognement, un peu comme le cri d'un sanglier.
Alors, Richard vit. Il tressaillit involontairement. Callan appuya plus fort sur sa bouche. Au fond de la clairière, la lumière mourante du crépuscule fit briller les deux yeux braqués dans leur direction. La créature marchait sur deux pattes, comme un homme. Elle faisait une bonne tête de plus que Richard et devait peser trois fois plus lourd. D'autres mouches s'en prirent au cou du jeune homme qui s'efforça de les ignorer. Il regarda de nouveau Callan qui n'avait pas tourné la tête vers la bête. Elle connaissait le monstre qui les guettait et continuait de surveiller son compagnon, craignant qu'une réaction incontrôlée les trahisse. Pour la rassurer, il osa de nouveau un infime hochement de tête. Callan enleva la main de la bouche du jeune homme, lui prit le poignet et le tira vers le sol. Du sang ruisselait sur son cou tandis qu'elle gisait sur la mousse immobile, laissant les mouches continuer à la torturer. Richard sentit d'autres piqûres d'insectes, mais ne broncha pas. Dans la clairière, le monstre grogna. Richard et Callan tournèrent lentement la tête. À une vitesse étonnante, malgré sa démarche chaloupée, la bête gagna le centre de la clairière. Tandis que sa longue queue fouettait l'air, ses yeux verts sondèrent les buissons. La tête inclinée, elle pointa ses petites oreilles arrondies et écouta. Le corps de la créature était couvert de fourrure, à l'exception de sa poitrine et de son ventre tapissé d'une peau rose lisse et lustrée sous laquelle se tendaient des muscles noueux. Des mouches bourdonnaient autour d'une grosse tache sur la peau presque diaphane. La bête leva la gueule et émit un long sifflement. Richard vit l'air froid de la nuit se transformer en buée entre des crocs aussi longs et épais que ses doigts. Pour ne pas hurler de terreur, il se concentra sur la douleur que lui infligeaient les mouches. Inutile de penser à fuir en rampant ou en courant, la bête était trop près et trop rapide. Un cri monta du sol, droit devant eux, faisant tressaillir Richard. Aussitôt, la bête chargea de nouveau, vive comme l'éclair en dépit de son allure pataude. Callan enfonça ses ongles dans le poignet de son compagnon. À part cela, elle ne broncha pas. Richard se tétanisa quand la bête bondit. Sur un lapin aux oreilles noires de mouche qui tenta de fuir en criant de nouveau, mais fut inexorablement happé et déchiqueté en une fraction de seconde. Un coup de mâchoire suffit pour que la moitié avant de son corps disparaisse dans la gueule du monstre. Campé devant les deux jeunes gens, il déchira les entrailles du pauvre animal et se barbouilla la poitrine et l'estomac d'une infâme bouillie rouge. Les mouches, y compris celles qui harcelaient Callan et Richard, retournèrent vers la bête pour festoyer. Déchirés en deux, les pitoyables restes du lapin disparurent dans la gueule de la créature, qui déglutit, inclina de nouveau la tête et écouta. Richard et Callan retinrent leur souffle. De grandes ailes membraneuses si fines qu'on y voyait pulser des vaisseaux sanguins se déployèrent sur le dos de la bête. Elle regarda une dernière fois autour d'elle, décolla, plana au-dessus de la clairière, se redressa, prit de l'altitude et partit en direction de la frontière. Toutes les mouches l'avaient suivie. Callan et Richard se laissèrent tomber sur le dos, le souffle court et le corps engourdi à force de terreur. Le jeune homme repensa aux histoires de monstres volants qui dévoraient les gens. S'il n'y avait jamais cru, il était temps de changer d'avis. Un objet dans son sac appuyait douloureusement contre son omoplate. Quand il ne put plus supporter la souffrance, il roula sur le côté et se releva sur un coude. Trempé de sueur, il grelottait dans l'air mordant de la nuit. Callan reposait toujours sur le dos, les yeux fermés et la respiration saccadée. Quelques mèches de cheveux collaient à son front, mais la plus grande partie de sa superbe crinière formait comme une corolle autour de sa tête. Elle aussi ruisselait d'une sueur teintée de rouge autour du cou. Richard eut le cœur serré en pensant à la succession d'horreurs qu'était la vie de son ami. Dire qu'elle semblait tout connaître sur cette abominable créature. Que n'aurait-il pas donné pour qu'elle ne l'ait jamais croisée? Callan, c'était quoi? Elle s'assit et prit une profonde inspiration avant de regarder Richard. D'une main, elle ramena derrière ses oreilles les mèches qui la gênaient. Le reste de ses cheveux cascada sur ses épaules. Un garn à longue queue.
Elle passa les doigts sur son omoplate et en ramena, tenue par les ailes, une mouche qui avait dû se prendre dans les plis de sa robe et être écrasée quand elle s'était jetée sur le dos.
« C'est une mouche à sang. Les gardes les utilisent pour la chasse. Elle débusque le gibier et le monstre l'attrape, puis il se barbouille d'un peu de sang et d'abats écrasés pour les nourrir. Nous avons eu de la chance. »
Elle brandit l'insecte devant le nez de Richard.
Les garnes à longue queue sont idiots. Avec un garne à queue courte, nous serions morts. Ils sont plus grands et beaucoup plus malins. »
Elle marqua une pause pour s'assurer que Richard ouvrait en grand ses oreilles.
« Avant de quitter un terrain de chasse, ils comptent leurs mouches. »
Richard était mort de peur, épuisé, désorienté, et il souffrait le martyr. Ce cauchemar ne finirait-il jamais ? Sans se soucier de l'objet qui le blessait, il se laissa retomber sur le dos avec un soupir rageur.
« Callan, après notre combat contre les tueurs, tu n'as rien voulu me dire et j'ai respecté ton silence. »
Il ferma les yeux, incapable de soutenir le regard intense de son ami.
« À présent, on me traque aussi. Pour ce que j'en sais, c'est peut-être le meurtrier de mon père. Il ne s'agit plus seulement de toi. Je ne peux plus rentrer chez moi. Dans ces conditions, j'ai le droit de savoir, au moins en partie, ce qui se passe. » « Je suis ton allié, pas ton adversaire. »
Il marqua une courte pause.
« Quand j'étais enfant, j'ai failli mourir d'une terrible fièvre. Zed m'a sauvé en dégotant je ne sais quelle racine. Jusque-là, c'était la seule occasion où j'ai frôlé la mort. Aujourd'hui, j'ai failli y passer trois fois. Qu'ai-je... »
Callan lui toucha les lèvres du bout d'un doigt pour lui imposer le silence.
« Tu as raison. Je répondrai à tes questions. » Sauf si elle me concerne directement. Pour l'instant, ça m'est impossible. »
Il se rassit et la regarda. La pauvre tremblait de froid. Richard enleva le sac à dos de ses épaules, l'ouvrit, en sortit une couverture et en enveloppa Callan.
« Tu m'as promis un bon feu, » dit-elle.
« Tiendras-tu parole ?» Le jeune homme se leva en souriant.
« Bien sûr. Il y a un pain compagnon juste de l'autre côté de la clairière. Si tu préfères, on en trouvera d'autres un peu plus loin. »
La jeune femme le regarda, le front plissé d'inquiétude.
« D'accord. Nous irons plus loin. »«
Richard ?» demanda Callan.
« C'est quoi, un pain compagnon ?»